VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté aujourd'hui une résolution prévoyant l'envoi d'un groupe d'experts internationaux chargés d'enquêter sur les violences en République démocratique du Congo. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, l'Union européenne et les États-Unis souhaitaient initialement la création d'une véritable mission internationale indépendante, mais Kinshasa s'y opposant fermement. Les pays occidentaux ont préféré trouver un compromis avec les pays africains, ont indiqué à l'AFP plusieurs sources proches des négociations. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, des affrontements à l'arme lourde ont opposé des miliciens et l'armée congolaise à Beni, dans le nord Kivu. Ces combats ont fait au moins 16 morts et 10 blessés, et c'est un nouveau mouvement rebelle qui revendique les attaques. Idriss Fall a joint à Beni Omar Kavota, directeur du Centre pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme.
Des mouvements qui se dénomment mouvement national des révolutionnaires. Il s'agit d'une coalition de groupes rebelles et forces négatives armées, Maïma, des terroristes ADF, rwandais de FDLR, des ex-M23 et des prisonniers évadés récemment à la prison centrale de Beni Kangouaï. Tous ces éléments se sont réunis pour faire une coalition rebelle et c'est un mouvement qui multiplie des attaques aussi bien en territoire de Beni qu'en ville de Beni et autour de la ville de Butembo.
Mais qu'est-ce qui a pu fédérer, réunifier tous ces mouvements?
Tout ils s'apprennent à un ennemi commun, l'armée régulière, les institutions nationales, qui les combattent. Et donc, face à un ennemi commun, ils coalisent pour les combattre et, au-delà, ils disent aussi arriver à chasser toutes les institutions à place, également occupés et dirigés par la suite. Donc, ils sont quittés par le même sort qui leur est destiné par les forces de sécurité et de défense.
Mais comment se fait-il que le Kivu, d'une manière générale, depuis des décennies, c'est des rébellions M23, CNDD, Laurent Kunda, Mai Mai, ADF Nalu, c'est aussi au Nord Kivu qu'il y a eu le RCD Goma, RCD Kwa, et tous les mouvements rebelles ont pignon sur rue au Kivu. Pourquoi?
La malchance, c'est que toutes les rébellions qui naissent et qui vont jusqu'à Kinshasa, peut-être par le Nord Kivu ou par le Kivu. C'est à la fois une région stratégique, c'est aussi une région riche en ressources naturelles. Pendant que les groupes armés occupent, ils exploitent de manière illicite les ressources naturelles, l'eau et tout ce qu'on a comme minéraux. Il y a le bois, il y a le cacao, il y a le café, mais il y a aussi le commerce, les douanes qui génèrent des ressources. Ce sont des zones, finalement, qui permettent au mouvement de s'autofinancer, le malheur du Kivu, du Nord Kivu, mais aussi ses richesses.
Et c'est malheureux pour les populations du Nord Kivu.
Parce que ce sont les populations qui appellent les loups privés, de déplacer des guerres, vraiment la population qui appelle les prix, la population qui a tant souffert des atrocités de ces groupes armés, de ces forces négatives, de ces forces terroristes en émergence dans cette partie du pays.
Omar Kavota, directeur du Centre pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme à Beni. Les experts de la Cour pénale internationale, la CPI, ont bouclé jeudi à Libreville une mission au Gabon après la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba en septembre. Les conclusions de cette mission de deux jours seront transmises au parquet de la CPI qui décidera ou non de l'ouverture d'une enquête pour crime contre l'humanité ou crime de guerre à l'issue de laquelle le procureur pourra demander au juge de délivrer mandat d'arrêt ou citation à comparaître. La mission a rencontré des ministres, défense, intérieur, justice, communication, le rival du président Bongo, Jean-Ping, qui se proclame toujours le président élu, et 15 ONG soutenant les victimes, ainsi que certaines chancelleries occidentales, a précisé le gouvernement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants sud-soudanais doivent mettre un terme à la guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Tel est l'appel lancé jeudi par le secrétaire général de l'ONU en Ouganda, où se tient le sommet de la solidarité envers les réfugiés. Michel Joseph pour les précisions.
Les leaders du Soudan ne méritent pas de diriger leur peuple, a déclaré Antonio Guterres lors de sa visite dans un centre d'accueil de réfugiés sud-soudanais du nord de l'Ouganda. Le secrétaire général de l'ONU a écouté les témoignages d'enfants réfugiés. Ceux-ci ont parlé de leurs problèmes allant de la pénurie de médicaments et de vivres au manque d'installations sanitaires adéquates. Le peuple souffre énormément dans cette interminable guerre, a martelé Guterres. Avant d'ajouter, il est temps qu'elle cesse. Plus de 900 000 Sud-Soudanais fuyant les violences ont franchi la frontière ougandaise au cours de l'année écoulée, des femmes et des enfants pour la plupart. Le sommet de la solidarité envers les réfugiés de Kampala vise justement à attirer l'attention sur le sort des millions d'entre eux à travers le monde. Le gouvernement ougandais et l'ONU disent avoir besoin de 8 milliards de dollars sur les 4 prochaines années pour faire face à la situation. Jeudi, l'Union européenne a promis une assistance de 94 millions de dollars.
Les Nations unies ont décidé par un vote jeudi de demander à la Cour internationale de justice de se prononcer sur l'avenir des îles Chagos, un archipel britannique de l'océan Indien qui accueille une importante base militaire américaine. La résolution demande à la Cour de rendre un avis consultatif sur la décision britannique de séparer Chagos de Maurice et sur l'expulsion d'environ 1500 Chagossiens pour l'installation de la base militaire. Cet avis sera non contraignant, mais pourrait apporter de l'eau au moulin de Maurice, indépendant depuis 1968, qui réclame le retour des îles Chagos dans son giron. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a prolongé de 3 mois l'état d'urgence selon un décret publié jeudi au journal officiel. Cet état d'urgence renouvelé prendra effet à partir du 10 juillet selon le décret. Le Parlement avait approuvé l'état d'urgence en avril après un double attentat contre des églises de Tanta et d'Alexandrie au nord de la capitale qui avait fait 45 morts. Le groupe djihadiste État islamique qui avait revendiqué ces attaques a multiplié les menaces contre la minorité chrétienne égyptienne copte. L'ancien président du Botswana, Ketumile Masire, deuxième chef d'État de ce pays d'Afrique australe après son indépendance et médiateur dans plusieurs conflits sur le continent, est mort à l'âge de 91 ans, a indiqué vendredi son entourage. Ketumile Masire était hospitalisé depuis vendredi dernier pour une opération et avait été placé en soins intensifs. Il avait été élu à la tête du Botswana en 1980 après la mort du père de l'indépendance, Seretse Khama, et avait été réélu jusqu'en 1998 où il avait démissionné. Ses années de présidence marqué par une période de croissance économique particulièrement forte et il est considéré comme un architecte de la stabilité du pays. À Washington, il est 7h07.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et ici dans la capitale américaine, les républicains du Sénat, après des semaines de négociations à huis clos, ont dévoilé après la Chambre basse leur propre projet d'abrogation de l'Obamacare, la loi sur l'assurance maladie de l'ancien président Barack Obama. Ils se sont heurtés immédiatement aux critiques des démocrates et aux réserves publiques de certains modérés et conservateurs de leur propre parti. Abdourahman Dia.
Après des semaines de débats internes, les sénateurs républicains ont dévoilé leur projet de loi. Les grandes lignes restent, c'est-à-dire la diminution de l'enveloppe fédérale allouée aux États, la suppression de l'impôt aux plus riches imposé par l'administration Obama pour financer l'assurance santé. Sans surprise, les sénateurs républicains ont apporté quelques retouches au texte adopté à la Chambre des représentants le 4 mai dernier. Le chef de la minorité démocrate Chuck Schumer estime que cette version est pire que celle de la Chambre des représentants. Le Sénat devrait voter la semaine prochaine, puis cette mouture sera renvoyée à la Chambre des représentants pour réconcilier les deux projets. Le processus est loin d'être terminé et ne prendra fin que lorsque le document final sera sur la table du président pour la signature d'une nouvelle loi qui va définitivement enterrer Obamacare.
Et le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il allait nommer officiellement ambassadeur en Grande-Bretagne le collecteur de fonds républicains et propriétaire d'équipe de football américain Woody Johnson. Woody Johnson, âgé de 70 ans, est aussi l'héritier d'une grande fortune issue d'une des principales entreprises américaines, le géant pharmaceutique Johnson & Johnson, fondé par son arrière-grand-père en 1887. Jean-Roger Billon à ce micro, point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes, ce sera en compagnie de Henri Francis. Merci pour votre fidélité et bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.